Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, mercredi 12 novembre 2025. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Quelle bonne idée! On commence tout de suite avec le flash d'Estelle. Un petit bête flash. Ouais, c'est parti. À toi, Estelle.
Alors, après un an de détention, Boualem Sansal retrouve la liberté. Il était condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé aujourd'hui qu'il acceptait de gracier l'écrivain franco-algérien suite à la demande du président allemand. Cette demande a retenu son attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaires, a ajouté la présidence algérienne. Il sera transféré en Allemagne pour recevoir des soins médicaux et non pas en France suite à un contexte diplomatique très tendu entre les deux pays. Selon Libération, un avion a décollé cet après-midi pour assurer son transfert. Sébastien Lecornu a exprimé son soulagement sous un hémicycle d'applaudissements. À la COP30, on a failli entendre les voix des oubliés. À Belém, au Brésil, des militants autochtones brésiliens se sont heurtés hier soir à la sécurité de la conférence des Nations Unies sur le climat. Les manifestants ont tenté d'entrer dans le bâtiment pour faire entendre leurs revendications. En effet, ils voulaient alerter sur la situation des peuples indigènes. Les agents de sécurité les ont repoussés physiquement, provoquant des heurts avant que le calme ne revienne rapidement. Les entrées de la zone bleue ont été barricadées avec des tables et des meubles. En fin de soirée, les policiers ont demandé aux derniers manifestants et manifestantes d'évacuer le site. Les organisateurs de la marche pour le climat et la santé ont condamné la violence et pris leur distance avec l'incident. La question du jour est la suspension ou le maintien. Cet après-midi, l'Assemblée nationale entame le débat sur la suspension de la réforme des retraites. L'Assemblée a auparavant adopté à l'unanimité l'article 45 du projet de loi de finances de la sécurité sociale visant à réduire les inégalités entre pensions des hommes et des femmes. Maintenant, les discussions portent sur l'article 45 bis qui propose de suspendre jusqu'en janvier 2028 la progression de l'âge légal à 64 ans. Sur cette question, les positions sont claires. Les socialistes voteront pour la suspension, comme l'a rappelé la députée Océane Godard, les écologistes majoritairement également, selon Sandrine Rousseau. La droite républicaine, Horizon, la France insoumise et les communistes voteront contre, le Modem s'abstiendra. À l'extrême droite, Marine Le Pen a confirmé ce matin sur RTL son intention de voter sur la suspension comme tous les députés RN. Le débat s'annonce intense alors que le gouvernement cherche à maintenir le cap sur sa réforme des retraites. À Paris, Macron et Abbas ont dressé les bases d'un État palestinien. Hier, le président palestinien a été reçu à l'Élysée pour la première fois. L'ouverture d'une ambassade palestinienne à Paris reste conditionnée à la restitution des 4 dépouilles israéliennes. Mahmoud Abbas a réaffirmé sa volonté de tenir des élections d'ici un an. De plus, un comité conjoint franco-palestinien va travailler à l'élaboration d'une constitution palestinienne. Il réaffirme dans un entretien au Figaro que le Hamas n'aura aucun rôle de gouvernement à Gaza. Macron a rappelé que toute annexion de la Cisjordanie par Israël serait une ligne rouge. Une aide humanitaire de 100 millions d'euros a été annoncée pour Gaza. Enfin, Mahmoud Abbas a promis une extradition rapide de Hicham Harb, soupçonné de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers en 1982. Le festival de la bande dessinée d'Angoulême fait couler beaucoup d'encre. Pour sa 53e édition qui se tiendra en début 2026, le plus grand festival BD de France croule sous les controverses. Menaces de boycott, gouvernance, plainte pour viol et opacité, l'AFKEN, le Peter Parker de Rennes, nous explique. Rien que
ça. Comme dans un bon Tintin, tout a commencé par une enquête. 5 jours avant la 52e édition du festival, le 24 janvier 2025, le journal L'Humanité publie un article choc, gros sous et mal-être, enquête sur un festival d'Angoulême en pleine dérive. Pour tout comprendre, il faut revenir en novembre 2024. À cette période, la société gérante du festival 9e Art Plus dévoile son nouveau partenaire principal, la chaîne de fast-food Quick. Le logo de Quick est alors plaqué sur le site du festival, sur ses affiches, et des burgers Lucky Luke sont annoncés par la marque. Mais quand on parle montant et durée du partenariat à Franck Bondou, délégué général de 9e Art Plus, il répond « secret des affaires ». Problème, la réponse est pardon. Problème, la réponse est insatisfaisante pour beaucoup de monde. Le burger passe mal pour les acteurs publics qui financent la moitié du festival, surtout pour les collectivités territoriales qui tentent de soigner l'alimentation à l'école. Plus généralement, d'anciens collaborateurs accusent Franck Bondou et 9e Art Plus de vouloir transformer le festival de la BD en marque ou en salon.
Mais pourquoi on continue d'en parler aujourd'hui, l'AFKEN, à quelques mois de la 53e édition ?
Eh bien parce que le crossover Festival International de BD et Quick est loin d'être le seul hic de l'événement. L'entreprise 9e Art Plus qui dirige le FIBD depuis presque 20 ans est, entre autres, accusée de management toxique, opacité comptable et de népotisme, autrement dit de privilégier abusivement des proches. Mais le plus accablant reste à venir. Dans son enquête, l'Humanité avait dénoncé le licenciement d'une salariée du festival en 2024. Cette dernière avait déposé plainte pour viol lors de l'événement. La salariée juge ce licenciement consécutif à sa plainte. En juillet, alors crucifié sur la place publique, 9e Art Plus avait annoncé le retrait de son directeur Franck Bondou. La gouvernance du festival devait aller à une autre entreprise. Problème, samedi, le Festival International de la BD annonce que 9e Art Plus s'occupera en partie de l'édition de 2026. Cette fois, c'en est de trop pour les amoureux et amoureuses de la BD. Le Syndicat National des Auteurs et Compositeurs et le Syndicat des Travailleuses Artistes Autrices appellent au boycott. Lundi, l'Humanité assène le coup de grâce avec une tribune en rouge et en gras. Le Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême est en danger de mort. 21 lauréats du Grand Prix d'Angoulême y dénoncent les scandales que 9e Art Plus fait peser sur le monde des cases et des bulles. Parmi elles et eux, Riyad Satouf, auteur de L'Arabe du Futur et des Cahiers d'Esther, Jacques Tardy, auteur d'Adèle Blanc-Sec, Julie Doucet, autrice de My New York Diary, ou encore Art Spiegelman, auteur de la BD Mouse et prix Pulitzer 1992. Pour les artistes, il est temps de tourner la page 9e Art Plus et de retrouver les valeurs qui ont fait la renommée du festival charentais. À leur manière, ces irréductibles dessinateurs et dessinatrices résistent encore et toujours au capitalisme.
Merci l'AFKEN. Et ce matin, Libération a aussi confirmé un boycott de l'événement par le groupe Media Participation, qui regroupe par exemple Dargo et Dupuis. De son côté, le ministère de la Culture prévoit une solution pour le 20 novembre. À Rennes, les seniors étaient en mouvement aujourd'hui. Dans le cadre de l'événement « Viens, je t'emmène », plusieurs séances de sport intergénérationnel se sont tenues dans les quartiers de la ville. Des ateliers d'activité physique ont réuni des seniors et des enfants de 7 à 11 ans de l'école municipale des sports. Et pour prolonger l'effort, une séance de fitness en petit groupe était proposée en fin de journée. Aujourd'hui, la journée était particulièrement sportive avec 18 rendez-vous. L'événement se poursuit jusqu'au 22 novembre avec plus de 120 rendez-vous. Le programme complet est en ligne sur viensjetemmène.fr. Place à une autre expérience immersive à Rennes. L'exposition Bloxmog de Guillaume Hitt qui démarre aujourd'hui au Tambour. Cette expo transmédia participative mêle dessin, animation 2D et 3D, jeux vidéo et réalité augmentée. Dans le cadre du cycle Verdoyon, l'artiste aborde avec humour la pollution de l'air à travers trois fresques à progression narrative. Chacune est accompagnée d'un mini-jeu en réalité augmentée. L'exposition est ouverte jusqu'au 12 décembre dans le hall du Tambour à Rennes 2.
Merci pour ton flash Estelle et merci pour ton papier l'AFKEN, mais citer Peter Parker, ça fait de moi le rédacteur en chef horrible. Ah, il dit oui, salaud. Bref, c'est l'heure de l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
De quoi parle-t-on ce soir, Romane ?
Eh bien, ce soir, on va parler du SAGE. Depuis 1992, les SAGE, ou schémas d'aménagement et de gestion des eaux, fixent les règles de gestion de l'eau en France. Chez nous, le SAGE Vilaine coordonne un périmètre important sur tous les bassins de la Vilaine. Son périmètre est à cheval sur deux régions, la Bretagne et le Pays de la Loire, 6 départements et 508 communes sur près de 11 km². Pour s'adapter aux problématiques de
11
notre...
11 000 km².
11 000.
11, bon, ça fait
juste dit 11, bon, moi c'était 11 000.
Pardon, je te laisse poursuivre.
Pour s'adapter aux problématiques de notre temps, le SAGE doit être mis à jour lors d'une révision. Une révision qui est en consultation publique en ce moment et jusqu'à vendredi. Une révision qui vise à intégrer de nouveaux enjeux, qualité des eaux, mais aussi des milieux naturels, partage de la ressource et prise en compte du changement climatique et des risques d'inondation et de submersion marine. Mais voilà, certaines mesures font débat. Aujourd'hui, nous allons décrypter cette révision pour vous aider, si vous êtes concerné, à donner votre avis lors de la consultation publique en cours. Pour cela, nous sommes aux côtés de Florian Denet, élu aux Jeunes Agriculteurs 35. Il porte un sweat noir floqué à l'effigie de son syndicat. Et on retrouve aussi Samuel Dugas, co-porte-parole à la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine. Et c'est son imperméable noir qui est à l'effigie de son syndicat.
Et ma banane aussi.
Dans le volet qualité des eaux, le diagnostic du SAGE montre que seulement 8% des cours d'eau et des bassins sont en bon état. Quelles sont, selon vous, les principales causes de cette dégradation ?
Ok, pourquoi on se retrouve avec une eau polluée à ce point-là, avec un mauvais état quand on parle de 8% des masses d'eau qui sont en bon état seulement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un problème écologique, morphologique et biologique. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de biodiversité dans les cours d'eau. Ça veut dire que morphologique, c'est-à-dire qu'on a... On a canalisé les points d'eau, donc ça joue beaucoup moins son rôle d'éponge, de ralentissement du ruissellement, etc. Et biologique, parce que l'eau est contaminée par de nombreuses molécules et qu'on a du mal à traiter dans les usines de potabilisation de l'eau. Pour prendre un exemple, là aujourd'hui, on a besoin de... En gros, ça fonctionne, c'est des pièges à pesticides, okay, c'est comme des grands filtres avec du charbon actif. Entre parenthèses, qui vient de Russie ou de Chine, mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, il faut à peu près, aujourd'hui, 15 grammes de charbon actif par mètre cube d'eau. Il y a 10 ans, il n'en fallait que 5. Aujourd'hui, c'est 15 grammes par mètre cube. Et demain, nos infrastructures, elles ne permettront pas de mettre 30 grammes par mètre cube. Alors, je rentre direct dans les chiffres, là, mais parce qu'en fait, la situation, elle est grave. Et donc ça, c'est bien au moins là, le sujet qui sort aujourd'hui. Alors il est grand temps hein, de donner son avis parce que ça s'arrête demain, il me semble, ouais.
Ou vendredi.
En tout cas, voilà. Donc ça, au moins le fait que ce soit en débat, on va parler de la règle 1, j'imagine, parce que là, on est avec Florian, mais il faut, c'est important qu'on parle de toutes les règles. En tout cas, voilà, la situation, elle est grave. Notre eau, elle est pas bonne. Et demain, si ça continue, elle sera même plus potable.
Est-ce que c'est un constat que vous partagez, Florian ?
Oui, c'est de multiples facteurs qui rendent l'état des eaux en Bretagne assez alertant. Après, on peut inclure tout un tas de critères, par exemple sur l'état morphologique, des cours d'eau qui sont très linéaires, par exemple dès qu'il y a une voie ferrée, une route, une zone artisanale, un lotissement. Ça accélère toutes ces eaux et ces eaux n'ont pas le temps de s'épurer avant d'arriver dans nos eaux souterraines ou même directement à la mer. Ça, c'est un problème. C'est un problème aussi. On a beaucoup d'eau à tomber dans notre région et on n'en retient rien. C'est retenir l'eau en fait qui compte. C'est retenir l'eau déjà dans nos parcelles, retenir l'eau dans nos infrastructures. C'est vraiment l'enjeu. C'est pour moi retenir l'eau pour éviter les pertes de molécules.
Oui, j'abonde dans ce sens-là et on retient l'eau au
fil. Il y a un consensus là-dessus, j'ai l'impression.
Avec ce qu'on appelle dans la règle 11, les éléments structurants du paysage, bon, principalement les haies, et à savoir que là, nous, en Bretagne, on en perd beaucoup. Et malgré les programmes de plantation avec Bresse-Bocage, etc., qui sont gratuits, ben, malgré tout, on perd des linéaires de haies. Or, c'est primordial dans le paysage pour ce que tu disais, Florian, faire ce rôle-là de retenir l'eau, de filtrer l'eau. Enfin voilà. Et donc ça, c'est une des règles très importantes dans la révision de ce SAGE-Vilaine. Même si elle concerne pas les haies qui sont déjà dans, alors on va pas rentrer dans les termes techniques BCAE, mais de la PAC. En gros, les haies déclarées par les agriculteurs, elles normalement, alors c'est une autre question parce qu'il y a une grosse impunité sur le sujet, mais normalement elles sont déjà protégées. Mais en tout cas là, il s'agit de protéger toutes celles qui sont pas dans ce cadre-là, et il y en a quand même un paquet. Voilà.
Le problème, c'est que ça se surtranspose justement à ces BCE8. Il y aurait des compensations à hauteur de 400%. Je ne sais pas sur quels critères ils se basent. Même 400%, si on compense, quel territoire va compenser ces terres-là ? C'est des terres cultivables qui vont encore disparaître pour compenser cette disparition-là. Il y a déjà une loi qui existe en compensation, mais à hauteur de 400%, c'est trop. C'est d'ailleurs le problème de ces nouvelles règles, c'est qu'on ajoute des règles aux règles et des normes encore plus dures alors qu'il existait déjà.
Je te coupe, Florian, mais là, sur la BCAE, justement, elles sont exclues du SAGE, de la révision du SAGE. Donc là, il n'y a pas mille feuilles, si tu veux.
Donc le SAGE propose autre chose, vu que la filtration n'est pas satisfaisante. Est-ce que tu peux nous en parler, Romane ?
Le SAGE propose de limiter les pesticides sur certaines zones de captage d'eau potable, voire de les interdire, notamment sur les parcelles de maïs les plus sensibles au ruissellement. Sur ces parcelles, l'utilisation des herbicides sera interdite, ce qui représente une première en France. Selon vous, est-ce que c'est une mesure nécessaire pour la santé publique ou une contrainte pour les exploitants ?
Telle qu'elle est proposée, c'est une énorme contrainte. On nous demande de le faire dans les 3 ans. Donc, c'est-à-dire arrêter le désherbage chimique pour passer à du désherbage mécanique. Les agriculteurs qui font du désherbage mécanique depuis déjà plusieurs années le disent très bien, on ne peut pas être bon en 3 ans, puisque en fait, en 3 ans, on a le droit qu'à 3 essais, on implante le maïs une seule fois par an. Donc, le problème, on ne peut pas être bon, il faut 8, 9, 10 ans pour être bon et s'essayer. Il faut aussi s'équiper mécaniquement. C'est une multitude de machines selon les années et selon les saisons. Il va falloir une machine pour telle saison, l'année d'après une autre. Une machine ne va servir qu'une fois tous les 3 ans, donc ça a des coûts énormes. Je ne vois pas comment on peut s'équiper en si peu de temps et devenir bon dans ce domaine en si peu de temps. En 3 ans, ce n'est pas possible. Donc le SAGE-Vilaine propose, par exemple, d'interdire ces désherbages maïs sur certaines zones sans études socio-économiques. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien de proposé pour accompagner les agriculteurs.
Donc là, il y a pas mal de contre-vérités qui viennent d'Edine. J'ai essayé de les corriger. Alors, déjà, on a un truc assez formidable qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire. Ça s'appelle les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Mmh. On a des houes, on a des herses, des houes rotatives. Enfin bref, on a plein d'équipements déjà sur place, des équipements d'herbage mécanique pointus et efficaces.
Donc ça, c'est des équipements qui peuvent être prêtés, qui peuvent être mis à disposition des agriculteurs, c'est ça ?
C'est la force du collectif, ouais, c'est ça.
Le problème, c'est que des fois, on a des fenêtres de 2 jours pour intervenir, on ne peut pas passer 400 hectares de maïs sur 15 adhérents de la CUMA en 2 jours.
Non, mais...
C'est la limite.
Je suis d'accord.
On peut avoir un matériel entre 2-3 personnes, plus le quatrième, il va se faire avoir.
Ah si, la houe rotative, on roule à combien ? On peut rouler à 12 à l'heure. Enfin, c'est aussi des chantiers super rapides.
Il y a le binage aussi, qui va beaucoup moins vite.
Mais donc. Attention, je ne dis pas que c'est suffisant ce qu'on a. Mais tant mieux si cette règle-là va dans le sens de OK, puis derrière, après, il y a des subventions. Hein. Parce que j'ai parlé les CUMA, mais il y a les ETA aussi qui s'équipent, elles ne sont pas folles.
Donc ETA.
Les entreprises de travaux agricoles, d'accord, qui sont un peu le pendant privé des CUMA, voilà.
D'accord.
Mais qui font ce boulot-là de prestations pour les agriculteurs. En tout cas, il faut bien revenir quand même aux chiffres, parce que c'est une règle à la limite presque symbolique. C'est-à-dire souvent, on entend, on crie au loup, on ne va pas pouvoir y arriver, tout ça. Mais ça concerne que 1,5% du territoire. C'est-à-dire que cette règle-là, elle est issue d'une négociation de 3 ans, dans ce qui s'appelle la CLÉ, la Commission locale de l'eau, auquel participe la Chambre d'agriculture, donc pilotée, comme vous le savez, par la FDSEA et les JA. Donc, il y a eu un dialogue pendant... pas qu'un dialogue, parce que dans cette CLÉ-là, il y a 70 membres, il y a plein de membres représentés, il y a les pêcheurs qui sont présentés, les kayakistes, les élus, le préfet,
voilà. On en parlera des CLÉ, ouais, plus...
Et donc, tout ça, au bout de 3 ans, c'est une règle à minima qui concerne 1,5% du territoire.
160 km² sur les 11 000 km².
Un peu plus, je crois. Un peu plus
17 000 hectares. Je crois que ça concerne,
non, c'est
cette
ça.
Règle-là concerne 17 000 hectares.
Donc ça a été vraiment focalisé sur certaines zones les plus sensibles des aires de captage, avec un catalogue de dérogations possibles assez dense. Donc à aucun moment, c'est une mesure radicale qui va changer le paysage agricole, d'autant plus que Florian t'a dit tout à l'heure, on ne propose rien. Si... elle est en train d'en parler par rapport à des accompagnements financiers et techniques.
Je n'y croirais pas tant que je n'aurais pas vu les chiffres. On les réclame depuis plusieurs mois.
Très bien, très bien.
Il n'y a rien de proposé.
Mais les agriculteurs ne seront pas laissés sans rien.
Le SAGE-Vilaine s'était engagé, par exemple, à rencontrer les agriculteurs pour leur expliquer le projet. Il n'y a rien eu de fait. Donc, je mets beaucoup de réserves et très peu de confiance dans ce que dit le sage Vilaine.
Ah bah, y a eu un dialogue de rompu, mais là, pour le coup, c'est plutôt de l'attitude de l'AFD, des JA, de la Chambre qui s'est braquée alors qu'il y a eu 3 ans de négociations, on s'est mis d'accord. À minima encore, c'est presque pour moi une règle symbolique. Et il y a eu les élections chambres, il y a eu la coordination rurale qui allait avec son gros bonnet jaune pour dire bon, ça suffit, laissez-nous travailler, machin. La FEDE qui a été un peu, pilotée par ça. Peut-être même, là, il y a eu pour moi une ingérence, parce que ce qui est bien, il faut savoir que la politique de l'eau en France, c'est la seule politique où là, c'est un peu local. C'est par rapport au bassin Loire-Bretagne et après le Sage-Vilaine. Donc là, entre nous, on discute. Ça, c'est intéressant. Ça date des années 60-70. À l'heure où on est encore, même si on en parle de la décentralisation, mais voilà, à l'heure, c'est encore un état hyper central. Au moins, l'eau, on peut discuter entre nous. On aboutissait à un accord. Et voilà que d'un coup, il y a un changement. Et de dire à crier au loup, c'est pas possible, on est dos au mur et tout ça. Alors que tu l'as dit toi-même, Florian, il y a 3 ans pour s'adapter. Ça, c'était pas prévu au départ.
Trop peu. Donc, 3 ans, c'est trop peu.
Je peux te laisser dire ça. Il y en a qui sont en bio depuis 30 ans. Il y a des outils qui sont de plus en plus modernes.
Et ceux-là n'ont pas réussi en 3 ans à faire du désherbage mécanique de manière correcte. Ça, c'est sûr.
Là, on a un retour d'expérience, justement, de tous ces gens-là. Et on a des équipements.
Selon vous, il faudrait combien de temps pour amorcer cette transition?
Une dizaine d'années.
D'accord. Donc vous êtes d'accord sur le constat qu'il faut changer, vous n'êtes pas d'accord sur la temporalité. On peut peut-être passer au volet suivant, Roman, parce qu'après on va manquer de temps sinon.
On va passer au volet qualité des milieux naturels. Le bassin de la Vilaine compte de nombreuses zones humides, des marais et têtes de bassins versants qui sont essentielles pour filtrer l'eau et limiter les crues. Le Sage veut les protéger plus strictement. Il prévoit une interdiction de détruire les zones humides. Est-ce que c'est une avancée écologique indispensable ou une mesure trop contraignante pour les exploitants agricoles?
Ouais, bah là, je pense qu'on va être d'accord, sachant qu'il y a les dérogations sur les agriculteurs qui sont maintenues, à savoir l'accès aux parcelles. On peut aménager un accès aux parcelles dans une zone humide, on peut faire une extension de bâtiment. Enfin voilà, là pour le coup, ça concerne plus les collectivités locales qui vont être bridées, mais tant mieux. Mais elles, pour le coup, elles ont joué le jeu. Là en ce moment, il y a la consultation publique, mais jusqu'à fin juillet, il y avait la consultation des collectivités communes et Comcom. Et il y a eu un retour favorable de près de 80%. Donc elles sont prêtes à jouer le jeu, même si elles sont contraintes, ça va limiter certaines actes, ça va limiter certains projets de zones industrielles. Et il y a la règle aussi des zones d'expansion de crues au moment du lit majeur, de pas aménager ces zones d'expansion de crues. C'est vrai que c'est la règle 14. Pareil, une belle avancée et qui va permettre de limiter les inondations qu'on a connues encore il n'y a pas longtemps.
Je pense sur cette règle, certaines communes, de toute façon, vont ne plus pouvoir s'étendre, ça va être terminé. Et celles qui feront le choix de le faire, j'ai bien peur qu'une fois de plus, ça mange du foncier agricole, du foncier cultivable. Pour moi, c'est la limite de cette règle au niveau compensation. Après, les communes s'en arrangeront, mais ça concernera directement les agriculteurs seront les premiers touchés là-dessus.
Et on voit chaque année des périodes de sécheresse qui s'intensifient et des rivières qui s'assèchent de plus en plus tôt. Le Sage veut réduire les prélèvements d'eau de 10% d'ici 2030. Est-ce que c'est un objectif atteignable selon vous?
Je pense qu'il faut surtout dire que le Sage veut aussi interdire l'extension des réserves d'eau, des étangs, alors qu'en fait on est dans une région où il tombe 1000 mm par an. On n'en stocke pas une goutte. Une goutte d'eau qui tombe à l'Oudéac en milieu d'hiver, 2 à 3 jours après, elle est rendue dans la mer. Je pense que c'est une bêtise. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut chiffrer. Je pense que les eaux de ruissellement qui sont hors du milieu, attention, je ne dis pas qu'il faut prendre direct, couper les cours d'eau et faire des grosses réserves. Je pense que toutes ces eaux-là pourraient être stockées pour servir de l'irrigation, surtout en légumes, par exemple, parce que ce n'est pas de l'eau qui finit au caniveau, c'est de l'eau qui finirait dans nos assiettes. Donc, je pense quand même que la question mérite d'être posée et d'être étudiée.
Ouais, mais on a un terrain très fragile, on a des eaux de surface, hein, on a très peu d'eau souterraine par rapport aux autres régions de France. Et là, on est en train de parler de règles pour protéger justement toutes ces éponges-là. On a parlé des haies, on a parlé des zones d'expansion de crues. C'est là-dessus qu'il faut jouer, évidemment. On ne va pas s'amuser à faire des grosses bassines et qui s'évaporent et qui détraquent le ruissellement de l'eau. Donc là-dessus, il faut se battre pour préserver, et c'est vraiment le cœur de ce SAGE, toutes ces infrastructures agroécologiques qui structurent le paysage, et puis il faut en remettre et accompagner les agriculteurs, parce que oui, pour revenir sur la règle 1, des PSE, des paiements pour services environnementaux, donc qui sont des contrats que pourraient signer les agriculteurs avec les collectivités locales pour ce service environnemental là qui est rendu à la société de OK, l'eau là sur l'aire de captage, je vais la protéger. Moi, j'ai des contraintes parce que c'est pas rien ce qu'a rappelé Florian, ça peut faire peur si on n'a jamais goûté au désherbage mécanique, et ça j'entends, il faut un accompagnement technique, un accompagnement financier et pour les haies aussi, même si là il y a des accompagnements déjà, mais c'est pas suffisant, faut mettre le paquet. Voilà, à la conf on est clair là-dessus. On est pour les normes, mais il faut qu'elles soient payées et protégées, et notamment aussi à nos frontières.
Et je reviens sur cette question budgétaire. Est-ce que le SAGE propose des aides suffisantes selon vous, ou qui devrait contribuer à cet effort ?
Là, il y a des pistes. Pour l'instant, c'est pas encore. Donc, je comprends les inquiétudes.
Pour l'instant, faut.
Il y a des pistes quand même.
On n'a rien vu parce que le projet doit être signé par le préfet. Là, très bientôt, il n'y a rien. Les agriculteurs n'ont rien vu des accompagnements qui leur seront proposés. Et ça, c'est pas normal en fait. Ça, pour moi, ça n'est pas normal. Et ce n'est pas d'hier qu'on demande d'avoir une vision là-dessus.
Le préfet l'a dit lui-même, il va rien signer sans accompagnement financier des agriculteurs.
Donc il ne signera rien, parce que l'instant, il n'y a rien.
Il y a encore tout le mois de décembre, je sais qu'il y a les fêtes, mais...
Je demande à voir, en fait. Vraiment, ouais, je suis très inquiet pour ça.
Je comprends, et il y a des pistes de faire financer les mètres cubes, de mettre comme une taxe à tous les consommateurs, avec quand même... Voilà un plancher pour pas que les plus précaires soient trop impactés. Mais il y a cette piste-là de justement pour payer ce service rendu par les agriculteurs, de préserver l'eau, d'appeler à contribution tous les citoyennes et les citoyens du territoire.
Donc il reste un mois et demi pour que ces pistes deviennent plus concrètes. On peut peut-être passer au dernier volet, Romane, communication, gouvernance.
Pas de souci.
J'avais des questions là-dessus, je crois.
On peut aussi expliquer à nos auditeurs et auditrices que le SAGE est élaboré de manière collective par une sorte d'assemblée de l'eau, la Commission locale de l'eau, ou le CLE. Elle réunit des élus, des associations, des services de l'État, des agriculteurs et agricultrices. Certains maires, comme celui de la commune de Monteneuf, ont estimé dans les colonnes de Ouest-France que cette instance était problématique car pas assez représentative, notamment car elle manquerait d'agriculteurs et d'agricultrices en son sein. Est-ce que, selon vous, la concertation a été réelle et équilibrée pendant cette révision ?
Non. Pour moi, non. Sur 76 membres, la clé est représentée par 4 chambres d'agriculture, donc 4 agriculteurs. Autrement, la plupart sont des élus, des usagers de l'eau. Et quand on regarde sur les 15 règles, 11 concernent directement l'agriculture. Donc je pense qu'on est quand même très franchement pointé du doigt. Et on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que l'agriculture qui est responsable de la qualité des eaux. Et pour moi, il y a un gros souci là-dessus. Par exemple, quand on voit l'étendue du SAGE-Vilaine, c'est le plus grand de France. Vous l'avez dit tout à l'heure, il s'étend de la Mayenne au Morbihan, passant par les Côtes d'Armor. Donc c'est énorme. Sauf qu'il y a beaucoup d'élus rennais, hein, pour les nommer directement, stigmatise, je pense, l'agriculture et idéalise totalement l'agriculture de notre région. Et donc, pondent des règles par pure idéologie, en toute méconnaissance du terrain.
Alors moi, je ne verse pas dans le campisme, j'ai horreur de ça. C'est-à-dire, ah, ville, campagne, méchant rennais, gentil ruraux, j'ai horreur de ça. Non, on est justement tous ensemble, on discute autour de la table. Il y a la chambre d'agriculture qui a une voix forte, voire des fois vindicative. Mais c'est bien, c'est le débat. Il y a beaucoup, beaucoup d'élus qui sont d'anciens agriculteurs. Enfin voilà, c'était pas du tout une commission hors sol qui décidait en mocassin. Non, ça ressemblait pas à ça. Puis de toute façon, à la fin... C'est le préfet qui décide. Ça, c'est peut-être un problème à soulever. C'est ça, peut-être, le problème. À la fin, il a bien dit, hein. Moi, je signe ce qui me plaît, quoi. C'est peut-être ça, le souci. Non, non, moi, pour moi, on est arrivé, justement, avec cette négociation forte et dure, parfois, de la Chambre, à une négociation, à des règles déjà très, très, très assouplies. Mais, symboliquement, effectivement, je reconnais que c'est fort, à savoir que ce serait la première fois qu'un sage vilaine, et je crois que c'est ça qui dérange, pas même pas la FDSEA, mais la FNSEA, là-haut, c'est ça qui dérange, le fait de dire, waouh, un sage peut interdire les herbicides pour protéger l'eau que vont boire nos enfants. Et bien ça, le message, il est fort, et nous, on peut porter ce message-là, on pourrait être fiers de nous, et ça pourrait faire des petits dans le territoire national.
Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, Florian, et peut-être qu'on pourra conclure là-dessus, vous avez dit qu'il n'y a pas que les agriculteurs et les agricultrices qui sont responsables de la gestion de l'eau. Est-ce que dans la révision du SAGE, il y a des mesures envers d'autres acteurs et actrices de la société, envers d'autres milieux professionnels, ou est-ce que la majorité concerne l'agriculture ?
Ah bah, 11 règles sur 15 concernent directement l'agriculture.
Et les autres ?
Les autres, les communes, donc ouais. Les collectivités. Je pense qu'aussi, il faudrait regarder de plus près ce qui est fait passer les citoyens, nous tous en fait. Mmh. Les fosses mortes, les fosses qui ne sont pas aux normes. Aujourd'hui, certains préfèrent payer une amende tous les ans que de mettre leur fosse aux normes. Et c'est rejeté directement dans le milieu. Ça, pour moi, c'est un gros problème.
Est-ce que, à votre avis, il y aurait des choses à faire sur le tourisme, les divertissements?
Non, mais il ne faut pas se voiler la face. Déjà, 11 sur 15, je ne suis pas d'accord. parce qu'il y a les protections des zones humides, justement, je l'ai expliqué. Les dérogations restent sur les haies. Nous, on est exclus. Je ne suis pas du tout d'accord. Et le surtourisme, oui, alors ça, c'est un sujet là, vaste qu'on ouvre. Mais il ne faut pas se voiler la face. Oui, les herbicides, il y en a des fois qui disent les machines à laver, ça pollue aussi. Ouais, alors après, en quantité, il y a un problème, il y a un scandale autour des molécules. Les premières victimes, c'est les agricultrices et les agriculteurs, ok, faut bien le dire. Nous, à la Confédération, on milite pour l'interdiction à terme des herbicides et des pesticides, pas du jour au lendemain, on n'est pas au Sri Lanka, on ne va pas faire n'importe quoi. Mais du coup, là, ça va dans le bon sens, il faut protéger la santé. L'Académie des sciences est claire là-dessus, elle fait le lien entre herbicides, pesticides et biocides et cancers, c'est clair. On ne peut pas se voiler la face. Donc oui, il faut agir à minima. Et là, c'est un début. C'est un petit début, mais c'est un début. Il faut y aller.
Ok. Merci à tous les deux d'être venus, je crois, en plus, à l'heure de la traite pour l'un de vous. Donc merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à notre studio. Et puis la consultation, Romane, c'est jusqu'à vendredi, c'est ça ?
C'est jusqu'à vendredi et elle est disponible... Tout le monde peut donner son avis et elle est disponible sur le site de la Sage Vilaine.
Merci Romane. Et puis si vous voulez nous dire ce que vous pensez du débat qu'on vient d'avoir, du Sage, vous pouvez nous laisser un message. On a un répondeur téléphonique. Dites-nous ce que vous en pensez. Je vous redonne le numéro. C'est le 02 30 96 25 35. Merci.
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 6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique. Et aujourd'hui, c'est Eva qui fait sa chronique. Ça danse pas mal et vous ? Vous ne trouvez pas que les quelques secondes de son que vous entendez en ce moment même, ça vous met déjà dans un état particulier ? Alors, imaginez ces rythmes-là dans une salle de spectacle pleine à craquer avec, face à vous, six danseurs et danseuses à l'énergie difficile à nommer, tant on ressent la puissance, la rage, le désespoir, la joie, la drôlerie, et parfois tout cela à la fois. Oui, c'est au Triangle que j'étais mercredi dernier, le 5 novembre, avec ma fille, dont c'était l'anniversaire, et mon fils. Et nous avions tous les trois rendez-vous pour le spectacle Matière Première, créé par Anne Nguyen en 2023. Mais quelle claque, encore une fois. Je dis encore une fois parce que je suis souvent ébahie devant les corps dansants des danseuses et j'adore les voir vibrer et s'exprimer.
pourtant, comment raconter ce qui se passe dans son propre corps quand on regarde un spectacle, et particulièrement de danse, et quand ce spectacle est si fort et physique? C'est quasi mission impossible en vrai, parce que ça va vite, parce que ça vous traverse dans tous les sens, parce que vous ne savez pas si vous comprenez tout. D'ailleurs, le but d'un spectacle de danse est-il de tout comprendre finalement? Personnellement, en tant que spectatrice, je n'aime pas trop savoir à l'avance ce que je vais voir. Au cinéma, ça me fait ça, par exemple, ou au théâtre. Et aller voir un ballet, c'est la même chose. Je m'aperçois même que j'ai un rapport presque charnel au spectacle de danse. Comme si je choisissais de me laisser davantage porter par mes sensations ou émotions corporelles. C'est pour ça que je ne lis quasi jamais les prospectus avant d'ailleurs. Bon, là, ça me semble tout de même important d'évoquer la genèse du travail de Anne Nguyen, parce qu'elle nous parle de domination culturelle, mentale, post-coloniale et de la violence militaire qui rendent possible le pillage des ressources, par exemple. Ça questionne sur les rapports de force entre le continent africain entre le continent africain et l'Occident. Ça questionne sur la reconstruction de populations par le prisme des cultures africaines urbaines. Nous rappelons que la danse peut être, elle aussi, acte politique, acte de résistance, en choisissant ici le langage universel du corps avec des interprètes d'une force. Nous étions au troisième rang tous les trois, et je peux vous dire que ça allait jusqu'au moindre de leurs regards, leur danse. Jusqu'au bout de leurs ongles. Ça fait vibrer, ça fait rire et pleurer, ça fait peur, enfin ça remue quoi. Et je ne sais pas pour vous, chers auditeuristes, mais moi, ça me donne vraiment envie d'aller fouiller un peu plus dans le travail d'Anne Nguyen.
Bah nous aussi, ça nous donne envie. Merci beaucoup Eva. À demain dans 6 heures avant minuit.
À demain.
Tu es parmi nous en ce moment.
Oui, c'est vrai.
Le téléphone.
Allô? Allô?
Syllab, la radio sauvage.
Est-ce qu'il y a des messages sur le répondeur, Roman?
On va checker ça.
Tu regardes?
Ouais.
Vide, je crois.
Il n'y a aucun nouveau message.
Pff, lamentable. Laissez-nous un message vocal, je vous redonne le numéro. C'est le 02 30 96 25 35. On vous écoute, dites-nous ce que vous pensez de la révision du SAGE. Dites-nous ce que vous pensez de nos reportages, de nos interviews, de notre travail. Ou alors, donnez-nous des idées de sujets, ça peut nous inspirer. N'hésitez pas, 02 30 96 25 35. Merci Lucas pour la technique et à demain dans 6 heures avant minuit.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.